RVE, bonne matinée. Il est 10h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, bonjour à tous. La rétrospective de l'actualité de la semaine. Alors, faut-il vous reparler de la canicule ? Bon, non. Faut-il vous reparler de la nouvelle majorité Macron et de ses nouveaux députés qu'on a suivis jour après jour fouler pour la première fois les rangs de l'Assemblée nationale ? Vous avez également tout vu. Le nouveau gouvernement. Ah si, on va s'y arrêter quelques instants. Emmanuel Macron a appliqué la même recette que pour le premier gouvernement Philippe. Il a pris un peu partout. Il a pris chez En Marche, bien sûr, des fidèles comme Stéphane Travert, marcheur de la première heure, devenu ministre de l'Agriculture. Mais il a pioché un peu au Modem, même si le Modem n'a plus de poids lourd au gouvernement. Les trois Bayrou, Goulard et de Sarnez ayant démissionné à cause de cette affaire de soupçon d'emploi fictif au Modem qui empoisonne le parti. François Bayrou a expliqué qu'il ne voulait pas mettre en danger la loi de moralisation sur la vie publique en restant au gouvernement avec ses soupçons d'emploi fictif, lesquels ont été à demi reconnus en fait, hein, puisqu'il a dit vendredi que effectivement des employés du Modem ont été placés comme assistants parlementaires européens, mais ça ne voulait pas dire que c'était du travail fictif et qu'ils continuaient à travailler pour le parti, a-t-il expliqué. Alors Emmanuel Macron a pioché donc un peu au Modem et un peu chez les Républicains avec deux nouvelles figures, enfin deux nouveaux jeunes, Sébastien Lecornu, proche de Bruno Le Maire, et Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur Les Républicains devenu très rapidement macroniste. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est bien sûr d'élargir sa base, d'élargir sa majorité à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, un groupe Les Républicains a fait sécession. Ils se nomment les Constructifs, voulant appuyer la majorité Macron coup par coup. En fait, ils sont alliés à l'UDI. On assiste finalement à la renaissance de la vieille UDF, tandis que Les Républicains vont devoir, s'ils veulent un avenir électoral, se recentrer sur une position beaucoup plus RPR, si l'on peut dire, c'est-à-dire le gaullisme, pouvant ainsi reprendre des voix au Front National. Et en matière de constitution de groupe, les communistes, c'était pas gagné, ont réussi à constituer un groupe. Ils étaient 11 députés, 4 députés ultramarins les rejoignent. Ils sont donc 15. Ils pourront avoir un temps de parole supérieur à ce qui leur était promis en tant que non-inscrits. Mais l'actualité cette semaine, ça a été encore un attentat low cost. Plus rien à voir avec ce qu'on a connu en 2015 où tout était organisé, où les morts se comptaient par dizaines. Attentat raté sur les Champs-Élysées, mais tout y était. Allégeance à l'État islamique, cible policière, bonbonne de gaz pour faire le maximum de morts, sauf que ça a raté. Ce qui a été sidérant en revanche, c'est qu'on apprenait que cet homme qui était fiché S avait l'autorisation de porter une arme. Emmanuel Macron a demandé à son ministre de l'Intérieur de résorber cette situation insatisfaisante. Le ministre de l'Intérieur qui doit aussi se pencher sur la question des migrants qui continuent d'affluer en nombre en France et qui ne repartent pas une fois que leur demande d'asile ne leur a pas été accordée, parce qu'une fois installés pendant 18 mois, 2 ans en France, après c'est trop tard. Gérard Collomb va donc plancher pour accélérer les procédures, refusant de créer un nouveau centre d'accueil à Calais. Ça créerait un appel d'air, a-t-il dit. Voilà pour cette rétrospective. Merci de nous avoir choisis. Passez un très bon week-end.
La météo de votre région sur RVE.
RVE avec vous, pour vous, grâce à vous. Dans quelques instants, le sport et puis la météo de ce jour avec un ciel qui sera relativement nuageux. Il y aura de forts passages nuageux, mais aussi de belles périodes d'ensoleillement. Les températures dans la journée seront aux alentours des 25 à 26 degrés.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Et oui, bonjour à toutes et à tous, effectivement, bienvenue pour cette émission du dimanche 25 juin. Alors on aura beaucoup de choses à vous raconter en ce dimanche chargé. On parlera sport automobile avec Stéphane Caen, le pilote de Vieille Église et photographe de presse qui est venu cette semaine nous rendre visite dans nos studios. On reviendra aussi sur ce qui s'est passé la semaine dernière à Rambouillet, sport en fait. Hein. Cette fois-ci, on a les interviews, le bug est parti. Et puis naturellement, l'événement de la journée, ce sont les courses à l'hippodrome de Rambouillet. Bouillet, sixième réunion de la saison, la dernière avant les grandes vacances, hein, même s'il y aura une réunion le 9 juillet entièrement consacrée à des courses de poney. Aujourd'hui, donc, notre invité, l'unique invité qui va m'accompagner dans cette émission, il revient, c'est Francis Coche. Il était là la semaine dernière pour parler basket, il aime les chevaux, donc il joue aussi les pronostiqueurs hippiques depuis quelques semaines, hein, avec José Vega, qu'on salue, hein, qui est en vacances, José, et ils ont remplacé donc Boris. Francis, bonjour, c'est la sixième réunion de la saison. Mais aujourd'hui c'est important parce qu'il y aura ensuite aussi le lancement d'un timbre à l'effigie de la ville de Rambouillet.
Oui, bonjour Philippe, bonjour à tous. Oui, effectivement, aujourd'hui à Rambouillet, 8 courses, dont une qui va marquer l'émission du fameux timbre de l'hippodrome, qui sera la 7e course, dotée de 25 000 euros et 18 partants de chevaux de qualité.
Alors, c'est un énorme événement parce que fatalement, Francis, donc l'hippodrome de Rambouillet, comme on l'avait dit dans notre émission Tribune Foot, du 5 juin, quand les responsables de l'hippodrome étaient venus nous parler de ce timbre, eh bien, l'hippodrome va devenir mondialement connu.
Oui, tout à fait. Et c'est, en plus, les perspectives climatiques sont très agréables. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde à l'hippodrome parce que là, bon, la chaleur s'est un peu atténuée, c'est agréable, il y a un peu de vent et tout le monde peut venir à l'hippodrome, c'est un cadre champêtre, c'est très sympathique. Oui.
On a eu l'occasion d'avoir hier matin Jocelyne Delecroix au téléphone qui nous a dit qu'il y avait déjà même des gens qui étaient venus avec des caravanes aux abords de l'hippodrome, des vacanciers qui sont déjà là, des gens qui vont venir assister à cet énorme événement sur l'hippodrome, à savoir un timbre à l'effigie de Rambouillet et de son hippodrome.
Oui, c'est très louable. Je ne sais pas qui a eu cette initiative, mais en tout cas très louable. Oui. Mm-hmm. Bon voilà, 8 courses donc. Aujourd'hui.
Alors les dernières, juste avant de partir en vacances, ça fait du bien, donc faut pas se tromper Francis. Hein. Faut donner des pronos pour gagner un peu d'argent.
Oui, on va essayer, mais c'est pas toujours facile, surtout avec les premières courses qui sont des courses de chevaux jeunes. Voilà la première qui est destinée aux chevaux de 3 ans. Pas mal de débutants sur 2000 mètres, le 12 à noter et non partant. Donc je vous propose le 10, le 8, l'As, le 3. Et le 6.
On va répéter les pronos.
Oui, le 10, le 8, l'As, le 3 et le 6.
Ouais.
Voilà, dans la seconde course qui est ouverte aux chevaux de 4 ans sur 2800 mètres avec deux poteaux de départ, donc un 2800 et 7 chevaux qui partiront en 2825 mètres. Donc je vous propose le 13, le 9, le 15, le 5 et le 10. Mmh. Voilà, je répète, le 13, le 9, le 15, le 5 et le 10. Alors la troisième qui verra concourir des chevaux de 5 ans sur 2800 mètres, également 8 chevaux à 2825, je propose le 15, le plus régulier du lot, il a une musique très régulière, le 14 qui sera le cheval de la famille Duval d'Estaing, le 17, le 11 et le 5 qui sera mené par Michel Lenoir, un des grands pros de Vincennes, voilà. Donc je répète, le 14, le 15, le 17, le 11 et le 5 dans la troisième. Dans la quatrième, des chevaux de 5 ans sur 2800 mètres, également 8 chevaux à 2825 mètres. Donc le 15, le plus régulier du lot, le 14, le 13, le 11 et le 6. Bon, on peut dire qu'il y a une classe d'écart entre les chevaux du second poteau et ceux du premier poteau, mais enfin, on verra ce que ça nous réserve. Donc, je vous répète, le 15, le 14, le 13, le 11 et le 6. Dans la cinquième, sur 2800 mètres, également 8 chevaux à 2825, je vous propose le 6. Si ce cheval ne fait pas de faute au départ ou en parcours, il est régulièrement dans les 6 des premiers. Donc le 14 qui est le plus régulier du lot, le 14, le 13, le 10 qui est quelqu'un qui sera le cheval qui sera mené par quelqu'un de la famille Bazir, et le 3 qui est un fils de Défi de nous. Et je mettrai comme coup de cœur, je dirais le 12 qui à chaque fois qu'il a couru ou monté a été distancé, mais qui est très bon à l'athlète. Donc petite surprise avec le 12 à la 5e. Donc je répète les pronostics de la 5e, le 16, le 14, le 13, le 10 et le 3 avec un petit regret sur le 12, voilà. Dans la sixième, une course qui sera très ouverte parce que c'est une course qui est destinée aux femelles de 3 ans, donc dont certains n'ont pas couru ou très peu couru. Par exemple, le 13 et le 14 qui viennent tous les deux de finir sur une victoire mais qui n'ont qu'une seule course au compteur. Donc on peut espérer qu'un des deux sera premier. Donc je vous propose quand même le 13, le 14. Le 12, un cheval de la famille Rouet, distancé en dernier lieu mais régulier. Le 1, qui est inédit, mais c'est un cheval de l'entraînement Gabory, on ne sait jamais. S'ils viennent là, c'est pas pour faire de la figuration. Et le 11, donc je répète, le 13, le 14, le 12, l'As et le 11. Pour le 7e, qui est le Grand Prix du timbre de l'hippodrome, une course dotée de 25 000 euros, 18 partants, 2 poteaux, 9 à chaque poteau. Les chevaux du second poteau ont pratiquement le double de gains de ceux du premier poteau, donc on peut dire qu'il y a aussi une classe d'écart. Donc je vous propose le 18, le plus régulier du lot, le 11 également, le 3, en petite surprise, mais c'est la famille de Jean-Philippe Marie, donc c'est toujours, ça peut toujours être surprenant, mais comment on peut dire, bon entraîneur, le 12 et le 14. Donc je répète, le 18, le 11, le 3, le 12 et le 14. Et pour finir, le 8e, qui comme très souvent, comme, pratiquement comme d'habitude, est une course d'amateurs sur 2800 mètres, avec 8 chevaux à 2825. Ah, c'est, les courses d'amateurs, c'est toujours très difficile, Philippe, parce que bon, voilà, c'est très ouvert. Les chevaux sont de qualité pas très régulière. Les, bon, c'est pas toujours facile à mener aussi, ces chevaux-là. Donc je vous propose tout de même le 4, le 11, l'As, le 12 et le 10. Donc je répète, le 4, le 11, l'As, le 12 et le 10.
Voilà, ça ce sont donc pour les dernières courses avant les vacances d'été. Ça sera, on l'a dit, la 6e réunion ce matin à l'hippodrome de Rambouillet. Bon, Francis, on peut dire que le bilan est bon. Il a fait très beau quand même sur la plupart de ses courses. C'est important, hein, et là, on a eu une bonne année, hein, au niveau des courses.
Oui, c'est ce qui est caractéristique un peu la fréquentation de l'hippodrome de Rambouillet, c'est les conditions climatiques. Bien que dans les tribunes et dans le hall, on soit à l'abri tout de même, bon, mais c'est tout de même plus agréable, effectivement, quand il fait beau. Mmh. Et cette année, on a été particulièrement gâtés. Oui, alors, ça continue.
Oui. Alors, on va dire qu'il y aura beaucoup d'animation, encore plus aujourd'hui, hein, avec ce thème. Il y aura, je crois, aussi un portraitiste. Donc, ça aussi, c'est une des particularités des courses, et surtout de l'hippodrome de Rambouillet, c'est qu'on peut venir en famille, et il y a des attractions tout autour donc, de ce sport, qui est le sport hippique.
Oui, tout à fait. Et en plus, bon, il est à remarquer aussi que c'est un des hippodromes provinciaux le plus proche de Paris. On l'oublie, hein. Il y a beaucoup de grands entraîneurs qui font débuter leurs chevaux Rambouillet, ce qui montre également qu'ils ont une confiance dans la piste qui est d'une très bonne qualité. C'est une piste en herbe, mais c'est une des meilleures en France. Voilà.
Et puis on va le dire, hein, Duval d'Estaing, Dubois, Bazir, que des grands noms du trot.
Oui, tout à fait. Et Michel Lenoir également qui sera demain, Pierre-Yves Berva, donc des grands professionnels. Donc les gens qui n'ont jamais eu l'occasion de voir des courses de chevaux peuvent venir en Rambouillet. Ils ont un beau spectacle et ils auront également de grands professionnels sous leurs yeux.
On gagne beaucoup d'argent quand même à l'hippodrome, on peut repartir très riche, Francis.
Ah, c'est toujours le problème. Très riche, ça dépend combien vous misez. C'est toujours, je dirais, le gain est proportionnel à l'enjeu que vous y mettez, mais c'est pas toujours facile, mais ça permet de passer l'après-midi tranquillement. Bon, si on s'en sort bien, on gagne un peu d'argent.
Voilà, donc ça, c'est ça pour le 25 juin, puis après on retournera à l'hippodrome pour les courses, hein, le dimanche 3 septembre, puis le dimanche suivant, le 10 septembre, et on finira cette saison des courses traditionnellement. Bah, le premier dimanche d'octobre, ce sera le 1er octobre, qui coïncide très souvent avec le prix de l'Arc de Triomphe, mais l'hippodrome jouera la prolongation, parce que il y aura le 9 juillet une réunion essentiellement qu'avec des courses de poney. C'est une grande première.
C'est une grande première, c'est ce que nous avait expliqué le président la semaine dernière. C'est pour attirer les jeunes, mais c'est toujours très agréable, et c'est très 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 marrant, très,
ouais, très ludique en plus, hein.
C'est très ludique, ça, et en plus les petits, les enfants, ils prennent goût, hein. Faut voir, il y a de l'ambiance, c'est très intéressant. Moi je l'ai vu une fois et je vais vous dire que c'était vraiment très sympathique.
Oui, ça peut en tout cas susciter donc des vocations, c'est sûr, hein. Voilà, alors Francis, on disait qu'il y avait sport en fête, hein, la semaine dernière sur Rambouillet. Bon, on n'avait pas pu passer nos interviews, on va le faire. Donc on va écouter d'abord la conseillère régionale, Manon Laporte, nous parler de la situation de la femme à travers le sport. Vous allez voir, elle a plein de projets et plein de bonnes idées. Allez, je suis avec Manon Laporte, la conseillère régionale. Manon, une matinée sympa consacrée au sport féminin.
Très sympa. Ce que je vois, c'est une assemblée mixte. Il y a beaucoup de femmes, donc ça prouve que les femmes commencent à se battre. Enfin, elles ont déjà commencé depuis longtemps, mais comme tout va très lentement, il faut continuer le combat et jusqu'au bout. Enfin, il y a du mieux, mais il y a encore beaucoup d'efforts à fournir.
Oui, je sais que vous travaillez beaucoup, énormément auprès de Valérie Pécresse, hein, pour justement permettre au sport féminin d'être encore davantage en connu.
Oui, le sport féminin, c'est les installations adaptées, c'est les infrastructures adaptées, c'est développer la pratique du féminin, des femmes, des dirigeantes qui accèdent enfin aux responsabilités dans les ligues et dans les clubs même.
Quelles sont les plus grosses difficultés auxquelles on se heurte ?
La féminisation des instances dirigeantes, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez 8 présidentes sur 2 ligues, sur 72 ligues. Donc vous voyez bien qu'il y a déjà un problème dans les instances dirigeantes et même dans les bureaux, parce que les horaires ne sont pas adaptés, parce que les femmes hésitent, parce que c'est un monde d'hommes, c'est comme la politique. Donc si vous voulez, tout ça, il faut mettre des pressions, comme la loi 2014 avec des quotas, ben je pense qu'il faut faire la même chose pour les ligues.
Oui, puis c'est lié un peu à la reconnaissance de la femme dans notre société, finalement, hein, le monde professionnel, le monde journalistique aussi,
oui, et, puis le monde politique. Oui. Si on ne mettait pas des sanctions dans les partis politiques, et si on n'avait pas instauré la parité, vous n'auriez pas de femmes qui se présentent dans les élections locales. C'est un peu la même chose, petit à petit, mais il faut que les femmes prennent ce combat à cœur et on soit tout ensemble avec les hommes pour arriver à ce combat.
Merci Manon. Merci. Allez, Nathan, l'opinion de Laurie Berton, qu'on avait rencontrée à l'occasion des championnats du monde de cyclisme sur piste, c'est aussi des championnats d'Europe. Elle est membre de l'équipe de France de cyclisme sur piste. Et elle aussi, elle évoque sa condition de sportive, donc à travers le haut niveau. Avec Laurie Berton, membre de l'équipe de France de cyclisme sur piste. Laurie, vous étiez parmi les invités de cette matinée consacrée donc au sport féminin.
Oui, Marie-François Poutron m'a invité et j'ai accepté l'invitation avec plaisir. C'est important aussi à nous sportives de donner un peu notre ressenti, faire évoluer aussi la discipline, permettre aussi à nos fédérations d'amener des jeunes pour ma part sur la piste. C'est pour ça que ça me tenait à cœur d'être aujourd'hui.
Oui, vous sentez que le sport féminin est assez en retrait, même si on en parle un peu plus qu'avant quand même.
Oui, on en parle un peu plus qu'avant, mais on observe quand même un sport féminin en deçà des hommes. Nous, sportives de haut niveau aussi, d'être un peu des modèles pour les jeunes et d'aider une augmentation à la pratique de notre sport.
Oui, et notamment dans votre sport, vous sentez ce phénomène ?
Oui, c'est sûr qu'il y a, on regarde les chiffres, il y a énormément moins de filles qui font de la piste et du cyclisme en général. Donc comme je le disais, c'est à nous sportifs de haut niveau d'être des modèles pour les jeunes et des années sur piste.
Et peut-être vous investir aussi un jour, une fois votre carrière terminée, au sein de la fédération par exemple ?
Oui, par exemple, là je suis en plein dans ma carrière, mais je pense que c'est compatible en pleine carrière aussi de donner des idées. On a un emploi du temps assez chargé par notre sport, mais si on peut être disponible comme des journées comme ça aujourd'hui, je le fais avec plaisir. Si je peux faire évoluer ma discipline, c'est avec plaisir.
Bon, Laurie, très brièvement, c'est vos championnats d'Europe, donc cet automne, hein, là où vous en êtes dans votre saison.
Alors je suis en pleine phase de préparation sur route. Je fais les championnats de France la semaine prochaine sur route, avec des grands prix sur piste cet été, mais la vraie saison pour moi va rattaquer en octobre par les championnats d'Europe qui seront à Berlin.
Merci en tout cas.
Merci.
Alors, quelqu'un qui avait beaucoup d'idées, c'était Marie-Laure Poutreau de l'association Famix, une dame qui a beaucoup d'idées. Hein.
Oui, beaucoup d'idées.
Qui Marie-Laure ou Marie-Françoise ?
Marie-Françoise, pardon.
Bon, moi.
qui a beaucoup d'idées sur le sport féminin, sur le féminin en général, voilà. Mm-hmm. Donc, très, très belle intervention de Marie-Françoise Poutreau, mm-hmm. très, très étayée également.
Alors, on écoute donc Marie-Françoise Poutreau, eh bien nous parler de ces immenses projets pour le sport féminin. C'est toujours une lutte permanente. Alors, je suis avec Madame Marie-Françoise Poutreau. Vous avez animé cette matinée consacrée au sport féminin. Comment vous l'avez trouvé, public très réceptif ?
Écoutez, c'est un vrai plaisir parce que je trouve qu'il y a un engagement du tissu associatif sur son territoire de Rambouillet qui est dû vraiment à l'impulsion qui est donnée par la collectivité. On sent vraiment une énergie commune avec l'envie des gens d'investir le sport en général et le sport féminin, mais on sent que c'est vraiment, il y a une osmose, quoi, voilà. Mmh. Et ça, je l'ai senti tout de suite en rentrant dans la salle, et notamment par rapport à la belle participation, c'est pas toujours pareil. Et je sens que tout le monde est engagé, je dirais tout le monde est dans le peloton, si je reprends mon expression cycliste, et bravo à la collectivité, parce que franchement, c'est ce qui est fait est remarquable, et je crois qu'il faut le faire savoir.
Hein. Voilà. Alors, c'est un long combat, est-ce que finalement, forcément, aujourd'hui, vous avez quand même le sentiment qu'il y a un regard un peu différent.
Complètement. Il y a un regard différent. Regardez la mixité qu'il y avait dans la salle pour un thème femmes et sport. Hein, on est d'accord. Il y avait autant d'hommes que de femmes. On voit qu'il y a des choses qui se font. Il y a des engagements de femmes et d'hommes sur cette thématique-là. Moi, je dis qu'on est en train de gagner. Simplement, ça prend du temps. Il faut être endurant dans la vie, hein, oui. Pas sportif.
Et puis, est-ce que la condition de la femme dans le sport n'est pas liée aussi à la condition de la femme dans la société, d'une façon générale? Il faut trouver ses marques dans l'entreprise, dans le journalisme, dans la politique et dans les fédérations.
Je dis toujours, le sport n'est pas en dehors de la société, il est à son image. Vous avez aujourd'hui la parentalité dans l'entreprise qui est partagée homme-femme, ça va servir le sport. Vous avez l'accès des femmes à des postes à responsabilité dans l'entreprise, ça va servir le sport. Vous avez l'accès à des métiers dits masculins aujourd'hui qui sont ouverts aux femmes, ça va servir le sport.
Et puis naturellement, il y a des fédérations qui jouent peut-être plus que d'autres le jeu, comme le handball par exemple.
Bah oui, le handball, moi c'est toujours une fédé que je cite en exemple parce qu'elle a engagé depuis très longtemps cette thématique et elle a un rayonnement territorial. Je vous parlais de la savate boxe française, vous voyez bien, le club a été récompensé, c'est vraiment un exemple. Voilà, mais je pense que tout le monde va embarquer. Vous savez, je pense que des fois ça prend du temps, la prise de conscience, et une fois qu'elle est partie, c'est parti. Quoi. Voilà.
Ah ouais. Qu'est-ce qui est le plus difficile actuellement pour faire remonter le sport féminin?
Je pense que c'est le temps que les femmes peuvent y consacrer. Ouais. Et c'est là où les entreprises ont un jeu à jouer dans le fait qu'on laisse du temps aussi aux femmes sur cette vie, cette triple vie de femme, de maman et de sportive. Voilà.
Et puis le fait d'avoir une femme ministre des Sports, hein, Laura Flessel, c'est peut-être une bonne chose, une ancienne grande sportive de haut niveau.
Bah, ça continue à être un modèle et qui va inspirer. Je crois qu'il faut être dans l'inspiration et elle va encore poursuivre ce qui a déjà été fait, mais en tout cas elle l'accentuera, c'est normal, hein, et c'est un beau modèle.
Oui, ce qui va peut-être donner d'autres femmes présentes de fédération, parce qu'il n'y en a qu'une seule pour l'instant. Hein.
Oui, il n'y en a qu'une seule, non, mais je pense que ça va venir. Je pense qu'il y a des femmes qui ont déjà pris des postes sur les départements, les régions, et que le national va être la troisième étape.
Merci Marie-Françoise.
Je vous en prie.
Et puis naturellement, quelqu'un qu'on ne présente plus, Brigitte Dédier, elle a été la première médaillée femme dans l'histoire du judo français aux Jeux de Séoul. Elle a de très nombreuses activités aujourd'hui. Elle est même passée aux relations publiques de la Ryder Cup. On écoute donc Brigitte Dédier, elle aussi nous parler de sa condition de sportive au féminin. Alors je suis avec Brigitte Dédier, médaillée donc olympique aux Jeux, hein, en judo, première féminine. Brigitte, comment vous avez vécu cette matinée consacrée au sport féminin sur Rambouillet?
J'étais particulièrement surprise, et dans le bon sens du terme, par la dynamique qu'on a vue ici, les associations qui ont d'elles-mêmes, puisque nous on vient avec un peu le regard national, mais on sent que les associations ici, elles se sont prises en main, elles ont créé des choses, elles ont travaillé sur cette problématique et trouvé des solutions, surtout que ce soit le foot, le rugby, la boxe savate. Je trouve que c'est vraiment rafraîchissant et ça donne de l'enthousiasme parce que parfois on est dans des endroits beaucoup plus calmes, malheureusement.
Oui, alors vous qui avez été une des premières médaillées pour le judo en 88, est-ce que finalement le regard change un peu maintenant, évolue dans le monde du sport par rapport à une femme?
Alors le regard il évolue, mais il évolue, oui, pas vite. Hein. Malheureusement, je trouve que c'est pas très très rapide. Mais je trouve qu'il évolue plus vite sur le terrain, dans la proximité, qu'au niveau national, au niveau des fédérations, des structures, des institutions. Là, on est encore sur du traditionnel, sur du classique, sur la protection un peu de son poste. Sur le terrain, on va dire, dans les villes, dans les régions, ça bouge vraiment dans le bon sens.
Alors vous êtes naturellement DTN. Qu'est-ce que vous essayez au niveau de votre sport de développer en priorité, non?
Non, je suis plus DTN. Hein.
Bon, bah, vous l'avez été.
Je l'ai été. Ouais. Alors, dans le judo, justement, on essaie de développer le judo féminin parce qu'on est encore loin, on est à peu près à 28% de pratiques féminines. On sait qu'on peut faire mieux. Mais voilà, il faut former des nouveaux enseignants, former aussi des enseignantes, on en a beaucoup parlé. Et c'est très important d'avoir des femmes éducatrices, des femmes enseignantes, parce que c'est un modèle aussi pour les jeunes et on arrive plus vite à se transférer sur une femme éducatrice.
Et le fait que le sport soit un peu plus médiatisé quand même, on voit quand même un peu plus pour certains sports, hein, de compétition sportive féminine, ça aide.
À la fin, la médiatisation est un élément indispensable. En judo, on le voit bien parce qu'on a la chance d'avoir, enfin la chance, pas la chance, le travail, c'est qu'on a beaucoup de championnes de judo.
Puis oui, vous avez Céline Giraud qui est bonne communicante aussi. Hein.
Oui, heureusement. malheureusement. On a aussi Céline Géraud qui, quand même, je le rappelle, a été vice-championne du monde en judo. Mais effectivement, ça permet de voir des jeunes femmes épanouies et réussir et être performantes. Et donc, ça sert encore une fois de modèle et d'exemple sur le terrain. Ça donne envie à toutes nos jeunes filles dans nos clubs d'aller un peu plus loin et de se faire plaisir.
Oui, et puis ça, c'est aussi la condition de la femme dans la société d'une façon générale. Hein. Le sport est lié avec cette condition de la femme.
Ah ben, il faut bien se souvenir qu'on est 50% d'hommes et 50% de femmes. Donc, on devrait être à peu près partout. Donc, je crois qu'on voilà, y travaille, beaucoup de gens y travaillent, beaucoup de gens y croient. Et ça progresse, pas assez vite à mon goût, mais ça progresse.
Un dernier petit mot concernant la Ryder Cup. Ça va être une énorme fête.
La Ryder Cup est une énorme fête. C'est un événement mythique en golf puisque ça regroupe les 12 meilleurs Européens contre les 12 meilleurs Américains. C'est la première fois, bien sûr, qu'on le reçoit en France. On va le recevoir au golf national à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et oui, ce sera la fête des golfeurs, mais au-delà de ça, de tous les gens qui aiment le sport, parce que c'est une épreuve mythique où la confrontation non agressive, la confrontation entre deux équipes permet vraiment des performances extraordinaires. Donc j'encourage tout le monde à suivre cette épreuve, y compris à la télé, bien sûr.
Merci, Brigitte.
Merci.
Ouais, elle avait été DTN, hein, et non plus, elle ne l'est plus maintenant. Hein. Et puis dernière donc interviewée, c'est Sandrine Mathilde. Elle a été championne du monde de boxe française en moins de 48 kilos. Elle était venue d'ailleurs nous parler de sa victoire atlantique, c'était déjà il y a presque plus de 20 ans, c'était en 1995. Elle est toujours présente et elle aussi, elle est tout à fait à même de parler de la condition de la femme dans le monde du sport. Allez, avec Sandrine Mathilde de la boxe française. Sandrine, comment vous avez vécu cette matinée consacrée au sport féminin sur Rambouillet?
Alors moi, je trouve que c'est des bonnes idées parce que ça permet les échanges et de voir qu'il y a des choses qui sont faites. Donc c'est tout ce qu'il faut. Il faut continuer dans ce sens.
Et puis votre sport est quand même précurseur. Hein. Il y a pratiquement autant de licenciés femmes que d'hommes.
Alors autant non, mais on s'en approche. On s'en approche. Et c'est vrai que depuis ces dernières années, alors effectivement, la boxe au JO a favorisé ça, mais je pense qu'il y a aussi une prise de conscience que la boxe n'est pas réservée qu'aux hommes, évidemment.
Vous sentez que le regard d'une façon générale change un peu sur le sport féminin?
Oui, davantage. On le voit même, je dirais, aussi par rapport aux parents, parce que moi j'enseigne aussi au niveau des enfants, et il y a quelques années, les parents étaient très réticents par rapport à ça, et aujourd'hui, beaucoup moins. Donc on avance.
Et il y a des sports peut-être, j'allais dire, où on joue davantage le jeu que d'autres. Hein. On sait qu'il y a encore des sports qui ont du mal quand même.
Oui, probablement. Et puis après, c'est une envie aussi qu'il faut avoir dans la section ou dans le club. Hein, parce que il faut aussi être proche des féminines pour arriver à les garder.
En tout cas, si vous êtes une jeune fille, vous voulez faire du sport, venez à la boxe française, il n'y aura aucun problème.
Voilà, tout à fait. En plus, on travaille sur toutes les parties du corps, donc c'est vraiment un sport complet. Et les femmes aiment ça.
Merci. Voilà, donc pour ces interviews, Francis, on l'a dit, hein, c'est toujours très sympa, sport en fait, parce qu'il y a des thèmes intéressants. On avait parlé donc du développement durable il y a 3 ans à travers le sport. François Tommaso était venu nous parler aussi, notre confrère, de l'imposture à travers le sport, hein, et notamment de dopage il y a 2 ans. L'année dernière, c'était un gros dossier avec Jean-Philippe Gassien sur Paris 2024. Et là, c'est la situation de la femme à travers le sport, mais on a vu quand même que, avant tout, c'était aussi la situation de la femme à travers la société, parce que le sport, c'est le reflet de la société.
Oui, tout à fait. C'était très intéressant. Moi, j'ai bien aimé l'intervention de Brigitte Dédier, j'ai déjà dit la semaine dernière. Mm-hmm. Mais on voit que dans certaines spécialités, les femmes ont du mal à faire leur place. Bon, ça évolue notablement, et bon, on peut espérer que ça continue.
Voilà. Très bien. Allez, tout de suite, donc la pub, la musique. Ensuite, on va monter dans une automobile et on va rejoindre notre ami Stéphane Kahn, hein, qui a eu la chance la semaine dernière d'être aux 24 heures du Mans. Donc, il va nous en parler. Et puis, comme c'est un photographe de presse automobile, il va aussi nous faire un petit commentaire sur l'actu des sports mécaniques, Formule 1 et Rallye. Allez, on monte tout de suite en voiture après la pub et la musique avec Stéphane Kahn.
Bienvenue au Royal de Gazeran à Rambouillet, zone du Bel Air, face au magasin Feu Vert. Votre restaurant vous accueille dans un nouveau cadre convivial avec un espace enfant pour un moment entre amis ou en famille, 7 jours sur 7, midi et soir. Le Royal de Gazeran vous propose son buffet à volonté. Entrée, plat, dessert tous les jours et aussi la livraison à domicile sur royaldegazeran.fr. Le Royal de Gazeran, zone du Bel Air, 7 rue Gustave Eiffel à Rambouillet. Téléphone 01 30 41 78 88.
Hello les amis, je viens de me faire plaisir à la boutique Bel Ami à Rambouillet. J'y trouvais déjà des looks sympas, avec barbours et un éventail de chemises pour toutes les circonstances. Et pour ce printemps, je viens de m'offrir un total look Tommy Hilfiger. C'est un bon sportswear, c'est de bonne facture, c'est pour vous aussi, j'en suis sûr. Une offre élargie de la marque Tommy Hilfiger, ça vaut le détour à la boutique Bel Ami. Un centre de la guirlande de Julie, à Rambouillet.
Bonne nouvelle! Situé Parc Bel Air, La Forêt, direction Gazeran, votre nouvelle salle de sport CrossFit Sower vous invite à découvrir une pratique sportive dynamique et efficace pour booster votre quotidien. Adaptée à vos besoins, basée sur la gym, le cardio training et l'haltérophilie. Un coaching étudié en petits groupes, un esprit convivial et une super ambiance. Un pôle bien-être avec deux ostéopathes, une esthéticienne qui pratique tout type de soins ainsi que des modelages moments de bien-être. Alors, pour votre forme et votre santé, rendez-vous du lundi au vendredi de 9h30 à 21h, le samedi de 10h à 15h et le dimanche de 9h à midi. 1 bis rue Amélia Earhart, parc Bel Air La Forêt, derrière la zone du Bréfin. Téléphone 06 21 01 71 76. Forêt, derrière la zone.
Déjà l'heure donc d'en finir avec cette émission. Vous nous avez beaucoup accompagné, vous allez pouvoir souffler cette saison. Voilà, allez tout de suite donc la pub et la musique. Allez, avec Stéphane Caen, bonjour. Stéphane, on avait promis de se revoir, hein, actualité du sport automobile. Alors tout d'abord Stéphane, quelle est votre actualité pour vous en tant que pilote?
Alors en ce moment en tant que pilote, c'est vrai que j'ai mis un petit peu entre parenthèses parce que j'ai au niveau professionnel, j'ai un gros projet, il est en train d'aboutir, donc c'est vrai que j'ai dû mettre le côté pilote un petit peu de côté, mais ça va revenir avec Benoît avec qui j'avais fait le Monte Carlo historique. On a pas mal de projets et ça nous tente bien de recommencer notamment le Monte Carlo historique et puis de refaire donc des épreuves de préparation et de remettre la machine en route.
Alors c'est une année sabbatique en quelque sorte?
une année, alors un petit peu sabbatique au niveau de la compétition des courses, mais par contre, j'ai continué à faire des reportages photos, toujours pour des sites et proposer les photos à des équipages à la vente. Après, bien sûr, je continue à participer au rendez-vous de la reine, donc toujours le troisième dimanche du mois. Donc ça, voilà.
Oui,
ça,
on en avait parlé avec Pierre Buret, hein, ça fonctionne bien. Hein, c'est le troisième rendez-vous chaque dimanche, c'est vraiment un énorme succès.
Alors, ça rencontre de plus en plus de succès. Donc là, en fait, la semaine dernière, c'était le 104e. J'ai séché, je m'en excuse auprès de tous mes petits camarades, mais j'étais en fait aux 24 heures du Mans pendant tout le week-end. Mais c'est vrai que le week-end dernier, le 104e rendez-vous s'est super bien déroulé sous le soleil. Le rendez-vous de la reine, en fait, maintenant, fait de plus en plus d'activités annexes au rendez-vous. Le samedi, il y avait à Ono la rétrospective, en fait, de l'accident du Cornio. Donc la ville était un petit peu en fête et ils ont refait l'accident avec la voiture de l'époque. Donc le rendez-vous de la reine était présent. Et puis tout à l'heure, c'est la fête à Saint-Arnoux. Et donc en fait le rendez-vous de la reine est aussi partenaire et donc j'encourage tout le monde à venir nous voir à Saint-Arnoux pour les voitures d'antan. Donc nous serons présents toute la journée pour la fête de la ville, à partir de 11h tout à l'heure.
Alors il faut dire que ce sont des modèles qui font rêver. On va dire quel modèle peut-on voir, et puis on peut monter dedans pour faire un petit tour, hein.
Alors oui, de toute façon, on est tous tellement passionnés que tout le monde peut venir discuter, nous voir. Alors le rendez-vous de la reine, quand le troisième dimanche du mois, on fait toujours une balade. Mm-hmm. Donc pourquoi pas, il y a toujours de la place dans les voitures. Hein, tout le monde est bienvenu. Venez nous voir, sollicitez un petit peu les conducteurs, venez nous voir, et s'il y a de la place, on vous emmène faire la balade. Après, écoutez, là tout à l'heure à Saint-Arnoux, oui, pourquoi pas aussi, venez tenter votre chance, on verra bien.
Oui. Et parlez-nous un peu de ces modèles, parce que ça fait rêver, là, avec les noms que vous allez donner maintenant.
Alors les modèles, l'avantage est vraiment le point fort de notre association, c'est que on va de la voiture populaire, on peut parler de 4 chevaux, de 4 ailes, de voitures de ce genre, jusqu'à, on voit de temps en temps des Ferrari, des Lamborghini, donc vraiment c'est toutes les marques sont représentées. Tout le monde est présent, peu importe le type de modèle. La seule chose qu'il y a, c'est qu'en fait, ça se limite à des modèles qui ont au moins 30 ans, donc plus de 30 ans d'âge. Donc finalement, ça fait même quelques young timers. C'est ce qu'on appelle les voitures des années 80. Donc maintenant, elles sont éligibles aussi au rendez-vous de la reine. Et donc vraiment, toutes les marques sont présentées. Et bien sûr, on a nos avant-guerres aussi. Notamment pour le centième rendez-vous, on avait une Cizère qui était là. Enfin, voilà, c'est mieux que Tintin qui était de 7 à 77 ans. Nous, on prend des voitures qui ont beaucoup plus que 77 ans. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Tout le monde est bienvenu à partir du moment où c'est une voiture qui a plus de 30 ans.
Alors ça va être en stand-by là, en juillet-août, et ça reprend en septembre?
Alors non, c'est pas en stand-by. En juillet, donc en fait, il y aura la 105e édition du rendez-vous de la reine le 16 juillet. Donc toujours même principe sur le carrefour sur le parking, du Leclerc. Le rendez-vous statique, et puis après la balade. Et comme c'est l'été, et à l'issue de la balade, donc ce sera un pique-nique à Clairefontaine. Donc pareil, venez, vous pourrez assister soit au départ, soit sur le parcours de la balade, ou même venir pique-niquer avec nous. Venez nous retrouver, ce sera avec plaisir.
Très bien. Alors Stéphane, il y a la Reinette, et puis vous êtes un privilégié, vous l'avez dit, vous êtes photographe, comme nous sommes journalistes. Vous avez eu l'occasion de vivre une épreuve mythique la semaine dernière, les 24 heures du Mans.
Tout à fait, je reviens effectivement, c'est pour ça que j'ai séché un petit peu le rendez-vous. Donc j'étais aux 24 heures du Mans tout le week-end dernier, j'étais aussi aux essais le jeudi soir, les essais préliminaires 15 jours avant, donc j'ai bien profité de cette 85e édition des 24 heures du Mans, et qui a été pleine de rebondissements, qui était une très belle course avec une victoire Porsche à l'arrivée, la 19e, donc un record.
C'est pas celle qu'on attendait quand même, la Porsche qui gagne.
Non, c'est la numéro 2, et donc ça a été la surprise, parce qu'en fait la numéro 2 qui a eu des soucis très tôt dans la course, elle a perdu une heure au stand assez rapidement, elle s'est même retrouvée 56e sur 60 voitures, donc elle a dû cravacher pendant toutes les 24 heures. C'est bon, elle a eu un seul souci, c'était au niveau du moteur, au niveau du train avant, qui entraînait le train avant. Donc en fait, Voilà, ils ont réparé, ils sont repartis, et en fait, elle n'est passée en tête qu'à une heure de l'arrivée, et elle a grappillé tout doucement. Alors, elle a bénéficié aussi des abandons des autres proto-LMP1, qui est la catégorie reine, où Toyota était présent avec trois voitures. Et Toyota, en fait, qui a été très très performante aux essais, qui a d'ailleurs battu le record du tour pendant les essais le jeudi soir, donc un chrono assez incroyable à 253 km/h de moyenne, quelque chose comme ça. Et donc personne n'avait jamais tourné aussi vite sur le circuit du Mans. En fait, les trois Toyota ont rencontré des problèmes pratiquement au même moment, et la course était jouée. Ça s'est joué en fait dimanche aux alentours de 1h du matin. Malheureusement, deux des Toyota ont abandonné. La troisième avait pris beaucoup de retard, donc finalement elle finit, hein, elle finit huitième, mais elle avait pris trop de retard, elle n'a jamais pu, elle, remonter comme la Porsche numéro 2 a pu remonter.
Ça fait quelques années qu'on voit des 24 heures du Mans assez inédits quand même, hein, avec du suspense. On se rappelle, c'est arrivé l'année dernière. Hein.
Ah, mais tout à fait. L'année dernière, Toyota, dans le dernier tour, c'était assez incroyable. Là, donc, la Porsche numéro 2 qui passe en tête à une heure de l'arrivée. Donc c'était des LMP2, la deuxième catégorie des prototypes qui était en tête, ce que l'on n'avait jamais vu au 24 heures du Mans. Et d'ailleurs, à la fin, si une LMP2 termine, enfin il y a deux LMP2 sur le podium, deuxième, troisième. En catégorie GT Pro, ça s'est joué dans le dernier tour. Une Corvette était en tête à l'avant-dernier tour. Elle crève, hein, malheureusement. Les conditions étaient dures. Il faisait très chaud. La piste était brûlante. Donc les conditions étaient quand même assez dures pour les mécaniques. Donc en fait, la Aston Martin qui remporte, elle passe dans le dernier tour. Une Ford en profite pour passer deuxième. Donc tout a été redistribué à la fin. Et c'est vrai que la catégorie GT Pro, le suspense a été immense jusqu'au bout. Il n'y a que en GT AM où il y a un triplé Ferrari, où là, la limite, ça a été un petit peu plus... Bon, on n'a rien à dire par rapport au scénario de la course, mais voilà, c'était un petit peu plus tranquille, triplé Ferrari en GTAM. Donc, encore une fois, Ferrari également remporte des lauriers aux 24 heures du Mans.
Alors, je l'ai dit, c'est une épreuve mythique. Hein. Même si quelqu'un qui ne connaît pas le sport automobile, quand on lui demande une épreuve, c'est les 24 heures du Mans.
Alors, c'est une épreuve mythique. Et bon, je connais pas mal de monde à l'Automobile Club de l'Ouest, à la CO, et ils disent tous, il faut venir au moins une fois aux 24 heures du Mans. Donc, j'encourage tout le monde, venez vivre l'expérience, venez une fois aux 24 heures du Mans. C'est une fête. Alors, d'abord, bien sûr, c'est une course automobile magnifique. Les voitures sont, voilà, c'est des protos, ça va très très vite. Les GT, ce sont des voitures qu'on peut voir dans la rue. Donc, on peut facilement reconnaître les voitures par rapport aux Formule 1 où elles se ressemblent toutes un petit peu. Si on n'est pas un spécialiste, c'est vrai que c'est assez difficile de s'y retrouver. Au Mans, c'est facile. Les protos, on les voit, les GT. On peut, même sans trop y connaître, se laisser prendre au jeu. On peut commencer à regarder, à reconnaître. Et puis, ça dure 24 heures. Donc, on a le temps de les voir passer, les voitures. Hein. Elles font plus de 300 tours. Donc, celui qui reste au bord de la piste pendant les 24 heures, bon, à la fin, il les connaît bien. Il n'y a pas de souci. Hein. Il reconnaît un peu tout le monde. C'est vrai que il faut y aller au moins une fois. Et là encore, encore un gros succès populaire. C'est une fête populaire aussi. Il y a des concerts. Certains viennent pour l'ambiance, il faut le dire. Hein. Bon, il y a la course d'un côté, mais il y a l'ambiance de l'autre. On a beaucoup d'Anglais qui viennent aussi, beaucoup d'étrangers, donc c'est très convivial. On a un petit peu ce mélange de culture avec ce côté festif. Et cette année, le nombre de spectateurs devait être encore 253 000, je crois. Et sur les réseaux sociaux, la CO a publié des chiffres. Plus d'un million de personnes ont vu la course. Et ça reste peut-être la course la plus vue au monde. Et effectivement, qui a la renommée la plus importante.
Et au niveau prix, c'est abordable pour le grand public, quelqu'un qui voudrait venir le week-end?
Oui, alors il y a plusieurs prix, mais l'enceinte générale, c'est-à-dire celui qui veut venir voir la course sans avoir de place en tribune, pour toute la semaine, et ses préliminaires et ses courses, c'est 80 €, je crois, l'entrée. Celui qui veut avoir une place en tribune, bien sûr, c'est un peu plus onéreux, mais ça reste quand même abordable par rapport, encore une fois, à la durée de la course, au programme proposé, parce qu'il y a la course des 24 heures, mais le samedi matin, il y a des courses, il y a des plateaux supplémentaires. Donc il y avait une course de LMP3 de GT, il y avait la coupe Porsche, toute l'ambiance qu'il y a autour, les concerts. Alors cette année, il y avait Cool and the Gang, par exemple, mais il y avait aussi, il y avait Amir. La dernière, je me souviens, c'était... bref, ça va pas me revenir, c'était les dernières. Donc malheureusement, enfin, bon, à chaque fois, il y a des concerts aussi qui valent le coup. Donc c'est, voilà, c'est par rapport au prix payé, franchement, on en a pour son argent. Et voilà, c'est un déplacement à faire.
Alors, certains pilotes ont marqué l'histoire des 24 heures. Est-ce qu'on peut regretter quand même qu'on se spécialise davantage aujourd'hui? On a vu dans le passé des grands champions qui faisaient de la Formule 1 et de l'endurance avec les 24 heures du Mans. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare. Hein. Faut avoir stoppé sa carrière pratiquement de Formule 1.
Alors, c'est tout à fait vrai. Par exemple, Rubens Barrichello était présent. Bon, il a arrêté. Magnussen est là. Il fait un peu les deux. Mais c'est vrai que c'est plus difficile. Maintenant, les pilotes sont vraiment très typés par rapport à une spécialité. L'exception, c'est peut-être Alonso qu'on a vu à Indianapolis, mais enfin c'est de la monoplace aussi, il est parti aux États-Unis. Voilà. Par contre, de plus en plus de pilotes, on a vu l'année dernière Wendlinger, enfin il y a des pilotes maintenant, quand ils finissent leur carrière, ils viennent au Mans, ils viennent voilà se faire plaisir et puis continuer à piloter à haut niveau, parce que les prototypes, les LMP1, bon, ce sont des voitures quand même qui ont presque 1000 chevaux, c'est une vraie course, c'est une course d'endurance, mais c'est un sprint, voilà, c'est... Voilà, il y a de quoi se faire plaisir en tant que pilote, et effectivement, beaucoup de pilotes de Formule 1 passent par la case endurance et Le Mans, notamment avec la renommée qu'il y a tout autour, avant de mettre un terme à leur carrière.
Oui, ce sont des belles retombées après pour les marques quand même, hein. Quoi qu'il arrive, on surfe dessus. Hein.
Ah bah Porsche et sa 19e victoire, pour tout vous dire, oui, je pense que l'année prochaine, alors ils vont sûrement remettre leur titre en jeu pour la 20e victoire. Il y a Peugeot qui est tenté de revenir, et donc là, ils attendaient le nouveau règlement qui va sortir pour 2020, et a priori, ça irait peut-être dans le sens où Peugeot reviendrait. Donc effectivement, de toute façon, les 24 heures du Mans, ça a été un laboratoire un petit peu pour les marques, pour tester différentes choses. Hein, dans l'histoire du Mans, ne serait-ce que les freins à disque, les rétroviseurs, beaucoup de choses que l'on a dans les voitures de tous les jours ont été testées aux 24 heures du Mans. Et après, on les a eues dans nos voitures. Et justement, pour les marques, c'est non seulement la renommée, donc la gloire par rapport à la victoire, mais aussi un terrain de test assez fantastique.
Et vous, en tant que photographe de presse, vous avez pris naturellement d'innombrables photos?
Ah oui,
pour alimenter les hebdos.
Tout à fait. En fait, j'ai pris beaucoup de photos. J'ai eu la chance, en fait, de pouvoir accéder au stand juste au-dessus des ravitaillements de nuit. J'ai pu parcourir un peu le circuit. Je connais bien le circuit, donc il y a différents spots qui sont assez spectaculaires. Donc voilà, je me suis fait plaisir de ce côté-là. Il y a pas de souci. J'ai de beaux reportages, de belles photos, et donc encore une belle édition. Il y avait aussi cette année la météo était avec nous, il a fait très beau, très chaud. Bon, autant vous dire que les litres de bière ont coulé, nos amis anglais en ont bien profité, ils ont profité des coups de soleil aussi. Mais donc c'est vrai que c'était pour ça une très très belle édition, et pour les photos quand il fait beau, les couchers de soleil, les levers de soleil, bon, c'est, il n'y a rien de tel pour prendre de belles photos.
Alors on dit que Le Mans se joue souvent la nuit, c'est souvent la nuit qui est décisive, c'est encore vrai?
Ah bah c'est toujours vrai, et d'ailleurs à tel point que je vous dis, c'est entre 1h, 1h30 du matin que les deux Toyota qui étaient en tête ont rencontré des problèmes. Et donc pour la petite histoire, celle qui était en tête la plus véloce, c'était Kobayashi, qui a d'ailleurs fait le meilleur temps aux essais. En fait, il était au bout de la ligne droite des stands et il y avait un feu rouge. Et en fait, un des pilotes dont la voiture était juste à côté est venu le féliciter, lui mettre le poing levé. Il avait une combinaison orange un peu comme les commissaires. Et Kobayashi a cru que c'était un commissaire qui lui disait d'y aller alors que le feu était rouge. Donc il est parti. Son stand lui a dit non, attention, feu rouge, arrête-toi, pénalité, etc. Il s'est arrêté, et quand il est reparti la deuxième fois, l'embrayage a grillé. Donc c'est quand même le pas de chance, comme l'année dernière dans le dernier tour. Cette fois, c'est deux départs consécutifs assez rapides qui ont grillé l'embrayage. Et la deuxième Toyota qui abandonne à peu près au même moment, en fait, c'est malheureusement un accident de la circuit, enfin un accident avec un autre concurrent, voilà. Donc deux voitures éliminées, et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, la numéro 8 qui avait pris trop de retard, bon après elle a plus de soucis, mais elle est vraiment trop attardée pour remonter.
Alors ce dimanche, place à la Formule 1 maintenant. C'est bien parce qu'on a connu certaines années les 24 heures du Mans qui des fois tombaient avec un Grand Prix de Formule 1. Là maintenant, depuis quelques années, ça va pour le calendrier quand même.
Tout à fait. Bah, souvent c'était le Grand Prix du Canada. Ouais. Et je me souviens d'une année effectivement où allez-y, sa seule victoire, Grand Prix du Canada, arrivé des 24 heures du Mans, j'avais entendu ça dans la voiture. Ouais. Donc c'est vrai que pendant longtemps, il y a toujours une petite guéguerre à un moment entre la CO et puis la FIA qui organise le championnat du monde de Formule 1 et maintenant avec Jean Todt qui est présent, en fait, voilà, ça se passe beaucoup mieux, le calendrier est beaucoup mieux établi, et donc il n'y a plus, justement, cette concurrence de date. Et effectivement, bah, tout à l'heure, Grand Prix de Turquie, voilà.
Azerbaïdjan.
Exactement, et donc, en fait, bah, ce qui se passe, c'est que mano à mano, Ferrari, Mercedes, Vettel, Hamilton, voilà, donc on est reparti cette année, un coup à toi, un coup à moi. Bon, on a vu à Monaco le doublé Ferrari, mais bon... Mercedes a rendu l'appareil à Montréal, donc voilà, on attend la course, on attend de voir, et surtout parce que va faire Esteban Ocon aussi, notre Français, qui fait un superbe début de saison. Là aussi, on a un bon espoir, c'est un futur très bon pilote, et bah, par rapport à son équipier Pérez, c'est vrai qu'on a vu au Canada qu'il avait largement de quoi voilà répondre à Pérez, qui lui a un petit peu fermé la porte, et sans ça, bon... On peut espérer, on peut croire qu'il aurait fait un podium. Enfin bon, partie remise, voyons tout à l'heure ce que ça va donner. Mais justement, un espoir français. Au Mans, on a aussi eu cette année en LMP2, donc victoire LMP2, le deuxième, un Français qui a 19 ans, qui termine deuxième. Et bon, c'est là aussi un grand espoir. Donc voilà, les jeunes pousses françaises arrivent aussi bien en Formule 1 qu'en endurance. Voilà, même en rallye, donc toujours pareil hein, avec Sébastien Ogier. Le rallye de Pologne la semaine prochaine, Ogier est en tête. Voilà, là aussi, voilà, du suspense hein, entre Ford, Hyundai, Toyota a une victoire, Citroën a une victoire aussi cette année. Donc voilà, il y a du suspense, il y a de la bagarre, c'est ce qu'on aime en sport auto.
Alors, ça vous plaît cette saison de Formule 1? Parce que pendant très longtemps, on a reproché que ça manquait un peu de saveur. Je crois même que les droits de la Formule 1 devaient être vendus hein, pour relancer un peu ce championnat. Ça vous plaît cette saison, là, ce duel Hamilton-Vettel?
Oui, alors là, justement, ça a changé. Hein, les droits, effectivement, ont été vendus. C'est plus les mêmes personnes aux manettes. Le haut niveau technique, on a aussi, il y a eu des évolutions. Et c'est vrai que là, les voitures sont un peu plus spectaculaires. Ça se retrouve un petit peu au niveau des courses d'ailleurs, c'est un petit peu plus disputé, et puis bon, c'est vrai que voir ce duel Vettel-Hamilton, mais faut pas oublier Bottas qui a gagné un grand prix, faut pas oublier Raikkonen qui notamment à Monaco part en pôle. Voilà, il y a un petit peu pour tous, les Red Bull sont pas loin, donc finalement le moteur Renault Tagueuer est quand même performant, Renault qui là aussi arrive dans les points régulièrement. Non, c'est voilà, ça se resserre. Il y a du suspense. Les courses sont belles. Bon, certaines, malheureusement, effectivement, il n'y a pas trop de suspense. Mais bon, dans l'ensemble, c'est vraiment une belle saison, et il y a un petit peu plus de suspense. C'est un petit peu plus de bagarre que on pouvait avoir jusqu'à maintenant. Donc, ça ravit tous les fans de sport auto et de Formule 1.
Alors, vous parliez pour les rallyes. Là, il y a de la bataille, hein, parce qu'on sait que le club a dominé pendant des années, ou j'ai aussi. Là, on voit des vainqueurs pratiquement différents à chaque épreuve.
Oui, alors là, c'est ça qui est bien, c'est que, alors, non seulement c'est des vainqueurs différents, mais les voitures aussi. Donc là, il y a les quatre marques ont gagné, les quatre marques présentes ont gagné, mieux qu'en Formule 1 où finalement, il y a que deux marques qui monopolisent les victoires, mais là les quatre marques ont gagné. Otanac, qui est le coéquipier d'Ogier, remporte son premier rallye en Italie la dernière fois. Là on est à mi-saison. Et là, tout est indécis. Neuville qui... bon, j'ai eu la chance aussi d'aller couvrir le Monte Carlo, le tout premier rallye, comme photographe, pour faire des photos là-bas.
Rallye mythique aussi, hein.
Ouais, bah, rallye mythique, bon, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Et c'est vrai que déjà les voitures, pareil, le changement de réglementation, elles sont beaucoup plus spectaculaires, beaucoup plus puissantes. Il y a eu un pas en avant de fait, et pareil, là, je vous conseille d'aller voir une épreuve de WRC, c'est assez spectaculaire. Et donc cette année, Neuville qui a dominé les premiers rallyes, mais qui n'a pas concrétisé, les deux premiers, aussi bien Monte Carlo que Suède, et en fait, il abandonne pas, mais il a quelques soucis, il sort de la route, et donc malheureusement pour lui, il laisse échapper les victoires. Mais donc Ogier sur Ford gagne le premier, Latvala sur Toyota le second, Neuville remporte des succès, mais finalement Mick sur Citroën en remporte un, Ott Tanak sur la deuxième Ford le remporte le dernier. Donc on voit là, il y a du suspense. La seule chose peut-être où on peut dire qu'on est un petit peu déçu, c'est quand même Citroën dans l'ensemble, ou Chris Mick qui remporte un des rallyes. Bon, il sort beaucoup de la route, malheureusement, il a eu quand même beaucoup d'abandons, pas mal d'échecs. Donc là, il est remplacé par Mikkelsen pour le prochain rallye en Pologne. Il va être mis sur la touche. Il y a trois Citroën officiels. Chris Mick n'est pas là, donc on attend de voir ce que ça va donner pour la suite. Alors Mikkelsen a fait une bonne prestation en Italie, il avait une Citroën officielle, donc on attend de voir aussi ce que ça va donner au prochain rallye. Mais bon.
Très bien, merci Stéphane, vous viendrez nous commenter la suite, la deuxième partie en Formule 1 et puis pour les rallyes.
Ah bah avec plaisir, et puis même l'endurance avec la fin du championnat, on pourra le faire le point à la fin de la saison. Mm-hmm. Donc de toute façon, moi je vais essayer de me déplacer cet été peut-être, il y a le rallye d'Allemagne, mm-hmm. ou la Pologne ça fait un petit peu juste, mais le rallye d'Angleterre aussi cet automne, il y a des rallyes mythiques à aller voir, c'est pas si loin que ça, donc on va voir.
Très bien. Merci Stéphane, en tout cas.
Merci. Bon dimanche. Oui. Et puis
bonnes vacances pour ceux qui vont partir dans les prochaines semaines.
Exactement. Bonnes vacances à tous. Au revoir.
En centre-ville à Rambouillet, 95 rue du Général de Gaulle, votre traiteur traditionnel au carré d'or et son chef, un restaurateur de la région, vous propose ses entrées et ses plats garnis cuisinés à emporter à 9,60€ sur plats décorés et bouquetières de légumes et ses plats prêts à mettre au four à 12,50€ sur commande. Le carré d'or, c'est aussi son foie gras de canard maison, son saumon d'Écosse label rouge fumé, ses bouchées à la reine à l'ancienne, ses noix de Saint-Jacques au champagne et ses desserts maison. Alors pour vos repas de famille, vos baptêmes, communions, fiançailles, anniversaire et repas de mariage, entre amis ou en entreprise, le Carré d'Or, 95 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, 01 34 57 34 40 et sur www.carré-d'or-traiteur.fr. Fermez le lundi pour votre santé, bougez plus.
Bienvenue au Savoyard, 46 rue d'Angivillère à Rambouillet. Depuis 30 ans, le restaurant Le Savoyard propose une cuisine traditionnelle française et aussi des spécialités savoyardes. Le tout fait maison. Alors pour un moment convivial entre amis ou en famille, votre restaurant Le Savoyard vous accueille du mardi au samedi soir. Le Savoyard, 46 rue d'Angivillère. Téléphone 01 34 83 35 77.
Bienvenue au Royal de Gazeran à Rambouillet, zone du Bel Air, face au magasin Feu Vert. Votre restaurant vous accueille dans un nouveau cadre convivial avec un espace enfant pour un moment entre amis ou en famille, 7 jours sur 7, midi et soir. Le Royal de Gazeran vous propose son buffet à volonté. Entrée, plat, dessert tous les jours et aussi la livraison à domicile sur royaldegazeran.fr. Le Royal de Gazeran, zone du Bel Air, 7 rue Gustave Eiffel à Rambouillet. Téléphone 01 30 41 78 88.
Voilà, merci donc à Stéphane Caen, Francis. Donc le mot de la fin, on va rappeler, on l'avait pas fait la dernière fois, on avait été très occupé, donc on va le faire cette fois-ci. On va rappeler une dernière fois les pronos pour les 8 courses de cette réunion de Rambouillet.
Voilà, donc dans la première, je vous propose le 10, le 8, l'As, le 3 et le 6. Dans la seconde, le 13, le 9, le 15, le 5 et le 10. Dans la troisième, le 15, le 14, le 17, le 11 et le 5. Dans la quatrième, le 15, le 14, le 13, le 11 et le 6. Dans la cinquième, le 16, le 14, le 13, le 10, le 3, avec un petit regret sur le 12. Voilà. Dans la sixième, le 13, le 14, le 12, l'As
et le 11, dans la 7e qui sera le Grand Prix du Timbre de l'Hippodrome, la plus grosse affiche de la journée. Donc je vous propose le 18, le 11, le 3, le 12 et le 14. Et dans la 8e qui sera une course d'amateurs, le 4, le 11, l'As, le 12 et le 10.
Voilà, merci Francis de nous avoir accompagné une grosse partie de la saison, hein, à travers Tribune Foot, mais aussi comme invité pour le basket la semaine dernière, et puis aussi pour les pronos. Rendez-vous donc la saison prochaine. Tiens, Chalon-sur-Saône, ils sont champions de France, hein, oui. Chez les hommes. Hein, voilà. Allez, bon dimanche à toutes et à tous. La semaine prochaine, ça sera la DER. On parlera naturellement du Tour de France, hein, qui va débuter samedi prochain à Düsseldorf. Et puis, on aura du rugby avec Gilles Schmitt, qui viendra nous faire un petit peu le bilan et le topo de la saison du Ballon Val sur Rambouillet. Bon dimanche à toutes et à tous. Et puis ben, on salue Victor aussi, hein, et puis on vous laisse maintenant avec la suite de notre programme du dimanche. Salut, à très bientôt, bye bye.
Ouais.
Chaque dimanche 10h-11h sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carny.
RVE, bonne matinée. Il est 11h.